VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 1er septembre 2016, en direct de Washington, Idrissa Sédoudia et Arnold Burson. Nous commençons par les titres. L'Assemblée nationale incendiée au Gabon, point culminant des violences dans la capitale gabonaise après l'annonce hier de la victoire du président sortant Ali Bongo Ondimba à la présidentielle. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a exprimé hier sa profonde préoccupation concernant la situation au Gabon et il a lancé un appel au calme et à la retenue. Au Brésil, Dilma Rousseff a été destituée par le Sénat pour maquillage de comptes publics. Et ici aux États-Unis, Donald Trump s'est engagé à ne procéder à aucune régularisation de clandestins s'il était élu à la Maison-Blanche. Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Pour commencer, le Gabon, au lendemain des émeutes consécutives à la publication des résultats de la présidentielle de samedi dernier, qui donne la victoire au président sortant Ali Bongo. Nous retrouvons tout de suite Idriss Fall, notre envoyé spécial à Libreville. Idriss, rebonjour.
Bonjour. Donc, je confirme que l'Assemblée nationale est partiellement incendiée. Le siège du quotidien national L'Union et son imprimerie aussi incendiée. Les jeunes manifestants ont érigé des barricades dans presque tous les quartiers contestataires. Sarbonnage qui abrite le quartier général de Jean Ping et tous les quartiers policiers jusqu'au PK5. Ils ont fait tomber des poteaux électriques. Donc, c'était d'une violence inouïe cette nuit. Actuellement, Libreville, le matin, ressemble à un état de couvre-feu parce que toutes les rues sont bouclées, il n'y a pas de taxi qui circule. Donc, c'est ça, en fait, là, on se réveille à Libreville.
Et quelles sont les chances, les appels qui ont été lancés pour calmer la situation, pour apaiser la situation? Quelle suite?
J'ai pu parler ce matin même avec quelques jeunes manifestants qui m'ont dit qu'ils sont en train de se consulter pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Mais l'un d'entre eux m'a affirmé qu'ils vont absolument continuer avec détermination leur manifestation. Donc je ne pense pas, je ne sais pas si leur appel sera entendu. On n'a pas encore eu Jean Ping et je confirme aussi qu'il y a eu des blessés après l'assaut, la prise d'assaut du quartier général de Jean Ping au Charbonnage, puisque ce matin même les forces de l'ordre ont amené une dizaine de blessés à la clinique Sambrier. Et ces blessés nous ont fait savoir qu'ils ont dormi à côté de morts. Mais on n'a pas encore le bilan exact de l'offensive qui s'est déroulée cette nuit au quartier général de Jean-Pierre.
Alors Idriss, pouvez-vous revenir spécifiquement sur les raisons de la colère des partisans de Jean-Pierre?
Ça s'appelle la province du Haut-Ogoué, où le président sortant Ali Bongo, originaire de cette même province, a obtenu près de 95% des voix et presque tous les électeurs inscrits ont pu se rendre aux urnes, c'est-à-dire qu'il y a eu un taux de participation de plus de 99%. C'est ça que conteste l'opposition qui demande un recompte bureau de vote par bureau de vote. Ce qui n'est pas prévu selon les autorités par la loi électorale.
Merci Idriss Fall. Je rappelle à nos auditeurs, ou je leur signale plutôt, que nous vous retrouverons dans la seconde partie de cette édition. Entre-temps, je donne ici la réaction du porte-parole du gouvernement gabonais, M. Alain-Claude Billy Binze. Il a affirmé que l'assaut contre le QG de Jean Ping visait des criminels qui avaient incendié, et je cite l'Assemblée nationale dans l'après-midi, « des personnes armées qui ont incendié le siège de l'Assemblée nationale se sont repliées au QG de Jean Ping en même temps que des centaines de pilleurs et de casseurs », a-t-il déclaré à l'AFP. Anne ?
Oui, donc les partisans de l'opposant Jinping sont donc descendus dans les rues en masse hier et l'Assemblée nationale à Libreville a été incendiée par des manifestants à la suite des émeutes qui ont éclaté dès l'annonce de la réélection du président Ali Bongo Ondimba par la commission électorale. John Lyndon a joint Pierre Mézoui, manifestant et partisan de Jinping.
Ce que nous attendons beaucoup plus, c'est la réaction des États-Unis. Parce que Obama dit que l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais des institutions fortes. Donc, nous attendons la réaction d'Obama, de la France, puisque vous êtes nos partenaires. Et c'est vous qui pesez beaucoup plus en Afrique pour les affaires de changement. Jusque-là, nous comptons 7 morts déjà et de nombreux blessés.
Quant au porte-parole du gouvernement gabonais, Alain Mbilié-Nzimbinzié, il a expliqué que la loi gabonaise ne prévoit pas de publication de résultats par bureau de vote.
Pour ce qui est des réclamations d'opposition, elles doivent être fondées sur la loi gabonaise. Et la loi gabonaise ne prévoit pas de publication de résultats bureau de vote par bureau de vote, ni pour M. Ping, ni pour M. Ali Bongo. Donc nous n'allons pas réinventer la loi parce que l'opposition le demande, monsieur.
Il y a contestation des résultats. Pour question de transparence, qu'est-ce qui est prévu pour garantir la crédibilité?
La crédibilité est garantie par les lois gabonaises. Lorsque nous nous sommes engagés à cette élection, chacun connaissait les lois gabonaises. Et donc ce n'est pas parce qu'on a perdu qu'on doit refaire les lois. Et ça, nous sommes habitués maintenant dans notre pays à ce que l'opposition perdu, écrit et elle veut revendiquer pour refaire les lois de la République. On ne refait pas les lois parce que quelqu'un a perdu une élection.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a pour sa part exprimé hier sa profonde préoccupation et il a lancé un appel au calme et à la retenue après les émeutes à Libreville. Dans un communiqué, M. Ban a demandé à son représentant spécial pour l'Afrique centrale, M. Abdoulaye Batili, d'accompagner les acteurs politiques gabonais dans leurs efforts visant à apaiser la situation et à résoudre pacifiquement les questions litigieuses émanant du processus électoral.
Et pour clore cette page consacrée à l'actualité africaine, en République démocratique du Congo, 11 militants d'opposition ont été condamnés mercredi par un tribunal de Lubumbashi, dans le sud-est du pays, sans être assistés de leurs avocats. Ils avaient été arrêtés pour une manifestation contre le dialogue national voulu par le président Joseph Kabila. Les condamnations ont été prononcées en l'absence des avocats de la défense, qui avaient décidé de quitter la salle d'audience après la récusation des juges par l'un des accusés.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump a proposé mercredi un véritable arsenal répressif contre l'immigration clandestine lors d'un discours applaudi par la base conservatrice. Quelques heures plus tôt, le candidat républicain à la Maison-Blanche avait rencontré à Mexico, dans une ambiance plus apaisée, le président mexicain. Il a notamment contredit le président Enrique Peña Nieto qui a affirmé sur Twitter que le Mexique refuserait, quoi qu'il arrive, de financer la construction du mur que Donald Trump promet de construire à la frontière pour freiner l'immigration clandestine. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition.
Qui a tué le numéro 2 du groupe État islamique en Syrie? Sur les ondes de la Voix de l'Amérique, un responsable américain a rejeté comme sans valeur la déclaration du ministère russe de la Défense alléguant qu'Abu Mohamed al-Adnani est mort dans des frappes de l'armée russe où 40 militants de Daesh ont été tués mardi. Washington avance qu'Adnani était la cible de la coalition à Al-Bab. Le Pentagone n'a pas fini d'évaluer les résultats de cette attaque.
Les États-Unis se disent préoccupés par l'expansion des colonies juives en Cisjordanie. Précision de Lionel Gahima.
L'État hébreu a approuvé mercredi des projets de construire 463 nouvelles habitations dans diverses colonies juives de cette région palestinienne. Selon les autorités israéliennes, les juifs vivent dans ces zones depuis des siècles et leur présence n'entrave en rien le processus de paix. Cette importante expansion des activités et des implantations pose une sérieuse menace à la viabilité de la solution de deux États pour le conflit israélo-palestinien, a déclaré le porte-parole de la Maison-Blanche. Washington est particulièrement troublé par l'autorisation rétroactive des implantations illégales. La communauté internationale perçoit les colonies juives comme le principal obstacle à ce processus gelé depuis plus de 2 ans parce qu'elles parsèment un territoire que les Palestiniens revendiquent pour leur futur État.
Le Brésil a un nouveau président. Dilma Rousseff, du gouvernement de la gauche, a été destitué hier et remplacé par Michel Temer, son ancien vice-président. Elle a été démise de ses fonctions au terme d'un procès de 6 jours au Parlement brésilien. L'ancienne chef de l'État a été entendue pour maquillage de comptes publics.
Et puis, le président Barack Obama a quitté hier Washington pour sa 11e et dernière tournée asiatique qui le mènera en Chine pour le sommet du G20, puis au Laos, une grande première pour un président américain. 3 dossiers centraux de la présidence seront au cœur de ce voyage, le changement climatique, l'économie mondiale et la région Asie-Pacifique, a résumé Ben Rhodes, son conseiller. Enfin, plusieurs séismes d'intensité variable ont touché depuis mercredi la région de Kumamoto dans le sud-ouest du Japon, déjà fortement secouée au printemps, selon des informations délivrées par l'Agence de météorologie nationale. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, John Linden.
Le métro d'Abidjan ne sera finalement pas opérationnel avant 2020 comme espéré. D'abord annoncé pour 2017, puis 2019, le premier tronçon de 37,9 km du train urbain qui doit transporter près de 300 000 passagers chaque jour est victime des multiples négociations entre l'État et les entreprises intéressées par sa construction. 1 milliard d'euros sera nécessaire pour la première ligne au lieu des 500 millions d'euros planifiés initialement. L'Ouganda a accordé des très attendus permis d'exploitation pétrolière au groupe français Total et britannique Tullow, a annoncé la ministre de l'Énergie, Irène Mouloni. Le gouvernement ougandais espère gagner 1,5 milliard de dollars par an grâce à l'exploitation pétrolière. L'économie du Cameroun enregistre une forte croissance en 2016-2017 selon les prévisions du Business Monitor International. De 5,3% en 2016, la croissance atteindra 7,1% en 2017. Ceci grâce notamment à de grands travaux d'infrastructure et de pipeline.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
Ce mercredi était le dernier jour du Mercato, le marché des transferts. D'abord en Angleterre, Manchester City prête l'Ivoirien Wilfried Bonny à Stoke City.
Oui, Manchester City a prêté l'attaquant international ivoirien Wilfried Bonny, non désiré par le nouvel entraîneur Pep Guardiola, à Stoke City pour une saison. C'est ce qu'ont annoncé hier les deux parties. Bonny, âgé de 27 ans, arrivé à City pour près de 30 millions d'euros en janvier 2015 en provenance de Swansea, a disputé 46 matchs avec le club mancunien pour 10 buts. L'international ivoirien, avec 44 sélections aux côtés des éléphants, était devenu seulement le troisième choix derrière Sergio Aguero et le jeune Nigérian Kelechi Iheanacho depuis l'arrivée de l'entraîneur catalan.
Angleterre toujours, Didier Ndong à Sunderland.
Oui, le milieu de terrain gabonais de Lorient en Première Ligue française a signé un contrat de 5 ans avec Sunderland qui a déboursé 16 millions d'euros pour sa venue. Le montant de transfert le plus élevé de son histoire, c'est ce qu'a annoncé mercredi le club anglais. L'international de 22 ans débarque de Lorient qui l'avait recruté pour 1 million d'euros en janvier 2015 au club tunisien de Sfax. Il inscrit 2 buts en 46 apparitions avec Lorient.
David Luiz en route pour Chelsea.
Oui, un accord a été trouvé entre le Paris Saint-Germain et Chelsea pour le transfert du défenseur brésilien du Paris Saint-Germain, David Luiz, qui s'est rendu hier à Londres selon plusieurs médias. Selon un tweet d'un journaliste du média français RMC Sport, les deux clubs se sont entendus sur une indemnité de près de 40 millions d'euros. Le quotidien de la capitale française, Le Parisien, indique de son côté sur son site internet que le Brésilien est parti dans la capitale anglaise à quelques heures seulement de la fin du mercato.
En Belgique, Etchezile de Monaco prêté au Standard de Liège en Belgique.
Oui, le défenseur international nigérian de Monaco, Anderson Etchezile, âgé de 28 ans, a été prêté une saison avec option d'achat au club belge du Standard de Liège. C'est ce qu'on a appris ce mercredi auprès du club de la Principauté. Etchezile à Monaco depuis janvier 2014 n'avait pas encore joué cette saison avec le club monégasque. Depuis son arrivée, il a disputé 52 rencontres et inscrit 2 buts toutes compétitions confondues.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Comme promis, le Gabon, Libreville, s'est enflammé comme beaucoup s'y attendaient dès la proclamation des résultats de la présidentielle alentour de samedi. Ali Bongo Ondimba a obtenu plus de 49% des voix, suivi de très près par l'opposant Jean Ping qui obtient plus de 48%. Les 9 autres candidats ensemble ont obtenu moins de 2% des voix. Nous y revenons avec Idriss Fall, notre envoyé spécial à Libreville.
Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'annonce des résultats de l'élection présidentielle. Assis à côté de René Abougué-Ella, président de la CENAP, le ministre de l'Intérieur a lu les résultats province par province, le vote des Gabonais à l'étranger, puis les résultats globaux.
Au total, concernant le Gabon et l'étranger, inscrits 627 805, votants 373 310. Taux de participation, 59,46%. Bongo Ondimba Ali, 177 722 voix, soit 49,80%. Ping Jean, 172 128 voix, soit 48,23%. Est élu Bongo Ondimba Ali, avec 49,80%.
Opposition et majorité présidentielle ont eu un blocage. La province du Haut-Togoué, qui a Franceville comme capitale, où les Bongos sont originaires. Résultat, selon le ministre de l'Intérieur.
Province du Haut-Togoué, inscrits sont 11 714, votants sont 11 667, taux de participation 99,93%. Bongo Ondimba Ali, 68 064. Soit 95,46%.
Les 8 membres de la CENAP réunis à huis clos sur ce sujet. Après 3 interruptions, 2 commissaires de l'opposition à la plénière de la CENAP ont quitté la salle, dont Paul-Marie Gondjo.
Nous n'avons plus le droit de mentir au peuple gabonais. Nous n'avons plus le droit de mentir à l'opinion nationale et internationale. Ça suffit maintenant. Et le peuple gabonais ici saura qu'à la CENAP, il y a des gens qui veulent lui voler sa victoire et nous n'irons pas jusque-là.
Il claque la porte, mais les vrais représentants de l'opposition, membres du bureau de la CENAP, sont restés dans la salle. Jean-Marie Ndouma, le second commissaire de l'opposition à la plénière de la CENAP.
Ils sont restés, ça je ne sais pas. Nous ne savons pas pourquoi ils sont restés. Tout à l'heure, devant le ministre de l'Intérieur, vous n'allez pas partir, il vous invitera de pouvoir donner le résultat.
En réalité, face au blocage, les 8 membres de la CENAP ont procédé à un vote secret sur le Haut-Togoué. Paul-Marie Mukaga, vice-président de la CENAP et membre de l'opposition, a assuré devant la presse que les membres ont voté 4 pour, 3 abstentions et un vote contre. Ainsi, officiellement, Ali Bongo Ondimba est réélu depuis Libreville. Idriss Fall, la voix de l'Amérique.
Les événements au Gabon sont suivis de près sur le continent. Bagassi Koura a recueilli la réaction de Ismaël Diallo, porte-parole du Front de renforcement de la citoyenneté à Ouagadougou au Burkina Faso.
Quelqu'un dira, écoutez, les résultats ont été donnés, il faut laisser faire. D'autres diront non, il ne faut pas accepter cela parce que ce serait accepter la forfaiture. Mais ça prouve encore une fois que les élections en Afrique seront de plus en plus difficiles, de plus en plus contestées, et il sera de plus en plus difficile au président sortant de trafiquer, prêtez-moi le terme, les résultats pour se maintenir au pouvoir. Je ne dis pas que le président sortant actuel au Gabon l'a fait. Je dis simplement que cela sera difficile dorénavant.
Vu les résultats assez serrés entre les deux candidats, 49% pour Ali Bongo et 48% pour Jean Ping, on se demande si le Gabon avait un système de second tour, cela pourrait peut-être contribuer à apaiser la situation.
aurait été une bonne chose. Malheureusement, au Gabon, ils ont le système d'un seul tour, qui fait que c'est celui qui a la majorité, même si c'est de 50 voix, qui gagne. C'est dommage, mais c'est ainsi. C'est comme également les observateurs de l'Union européenne, et méditons également des États-Unis, ou le gouvernement américain qui demande un décompte bureau de vote par bureau de vote. Ce serait une bonne chose, certes, mais si cela n'est pas prévu par les lois et règlements du Gabon, ce serait difficile de le faire parce que ce serait un précédent. C'est une situation extrêmement difficile en ce moment. Espérons simplement que cela n'aille pas plus mal.
Est-ce qu'Ali Bongo n'a pas gagné aussi parce qu'il est le fils d'Omar Bongo avec un système assez bien implanté?
Il est difficile pour le président Ali Bongo de perdre les élections, vu que ce système est au pouvoir depuis longtemps. Mais en même temps, dire que Jinping est une alternative très différente d'Ali Bongo, cela me surprend un peu, parce qu'il a fait partie du système depuis toujours.
Alors, que peut faire l'Union africaine dans ce scénario où on s'achemine vers l'affrontement?
Bonne question. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Ah, j'aimerais bien savoir. Et je suis vraiment étonné de voir beaucoup de gens se battre pour diriger l'Union africaine. À part la satisfaction des égaux, je me demande vraiment si qui que ce soit a la capacité, la possibilité de créer quelque chose de nouveau dans cette organisation. Pour répondre simplement à votre question, je dirais que je crains que l'Union africaine n'ait pas grand-chose à proposer pour éviter que la situation dégénère. Vous voyez aujourd'hui le Burundi, vous voyez la Somalie, etc.
Ismaël Diallo, porte-parole du Front de renforcement de la citoyenneté à Ouagadougou, au Burkina Faso.
Dans Washington Forum, direction le Gabon, où la Commission électorale nationale a validé la réélection du président Ali Bongo Ondimba avec 49,80% des suffrages contre 48,23% face à son rival Jinping. Ce jeudi, on analyse le processus électoral et les résultats de ce vote à un tour. Que pensez-vous de ce deuxième septennat pour le président sortant Ali Bongo? Quel futur pour l'opposition gabonaise? Quelles conséquences immédiates et à long terme pour le pays? On attend vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h temps universel.
Le gouvernement nigérien compte céder pour un bail de 90 ans 120 000 hectares des terres agricoles à des Saoudiens dans le but, dit-il, de développer la région Est et de lutter contre l'insécurité alimentaire. Les négociations sont en cours, mais les organisations de la société civile s'oppose à cette cession. Moussa Tiangari, secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen, joint au téléphone à Niamey, au Niger, par Nanit Talani.
Bon, on s'oppose parce que d'abord, les terres qui vont être concédées, ce ne sont pas des terres vierges, des terres inexploitées. Ce sont des terres agricoles déjà exploitées et aussi des terres pastorales. Donc, si on donne une telle superficie très vaste à un opérateur privé pour faire la production, ça sera au détriment des petits producteurs locaux, notamment les agriculteurs, les éleveurs qui vont être spoliés. Et donc, pour nous, ce n'est pas quelque chose d'acceptable, d'autant plus qu'on ne peut pas compter sur des opérateurs privés pour assurer la sécurité alimentaire de la population. Et de surcroît, ça intervient à un moment où cela paraît déjà très, très grave. Vous savez que cette région de Diffa est confrontée à l'insurrection de Boko Haram depuis quelques années. C'est donc une région déjà déchirée par un conflit. Et donc, si on donne ces terres à des Saoudiens, alors qu'il n'y a pas très longtemps déjà, les populations ont été chassées de ces terres à la fois par les attaques de Boko Haram, mais aussi par les décisions du gouvernement d'évacuer les villes et les villages du lac Tchad. Les populations rêvent de pouvoir retourner dans leurs villages, dans leurs villes, si le conflit prend fin. Mais si on leur annonce que les terres vont être mises en bail à un groupe d'investisseurs privés, ça veut dire que c'est quand même une perspective très sombre pour les populations.
De quels moyens disposez-vous pour vous opposer à la décision du gouvernement?
Pour le moment, Dieu merci, il n'y a pas un accord qui est signé formellement. Les négociations sont assez avancées, mais nous comptons déjà faire le plaidoyer, attirer l'attention du gouvernement sur le fait que c'est une décision grave. grave, surtout dans un contexte déjà de conflit. C'est très grave et donc nous attirons son attention et nous espérons être entendus par les plus hautes autorités.
Au cas où les autorités ne renonçaient pas à ce bail, jusqu'où êtes-vous prêt à aller?
On utilisera tous les moyens du droit, tous les moyens légaux, notamment la mobilisation de la population elle-même pour dénoncer cette perspective sombre. On ne va pas rester les bras croisés, mais on espère que probablement on n'aura pas besoin d'avoir recours à d'autres moyens pour se faire entendre. Et on espère que le gouvernement lui-même comprendra que c'est quand même quelque chose de grave pour le pays. On ne peut pas s'autoriser à donner 120 000 hectares de terre pour une durée de 99 ans à des investisseurs privés au détriment des petits producteurs.
Moussa Tchangari, joint à Niamey au Niger.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Présidentielle américaine 2016, le candidat républicain Donald Trump a souligné hier que les États-Unis ont le droit de choisir les immigrés qui sont plus susceptibles de prospérer et d'aimer les Américains. Il l'a dit dans un discours sur l'immigration hier soir à Phoenix, dans l'Arizona, après une visite surprise au Mexique où il s'est entretenu avec le président Enrique Peña Nieto. Jean-Roger Bion fait le point.
Cette visite de M. Trump à Mexico n'avait pas été sans controverse, à savoir qui va payer la construction de son mur à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Dans une conférence de presse conjointe avec M. Peña Nieto, M. Trump avait dit que cette question n'avait pas été spécifiquement abordée dans leur conversation. Le président mexicain, qui n'avait pas contredit publiquement le candidat républicain, a par la suite écrit sur Twitter « Au début de la conversation avec Donald Trump, j'ai clairement indiqué que le Mexique ne paierait pas le mur. » Réagissant dans son discours à Phoenix, M. Trump a assuré que le Mexique financerait bien la construction de ce mur.
« And Mexico will pay for the wall. »
Le Mexique paiera pour le mur, croyez-moi, à 100%. Ils ne le savent pas encore, mais ils paieront pour le mur. Ce mur est un point central des propositions de M. Trump pour freiner l'immigration clandestine, tout comme l'expulsion des sans-papiers, notamment des éléments criminels parmi eux, ainsi que le sort des 11 millions qui sont illégalement dans le pays. C'était un véritable réquisitoire que Donald Trump a prononcé contre les clandestins, qu'il a accusé de prendre les emplois des Américains les plus vulnérables. Il a donné des exemples de crimes violents commis par certains de ces illégaux, annonçant une tolérance zéro pour ce genre de comportement. Il a pris cet engagement dès qu'il sera à la Maison Blanche.
Under my administration, anyone who illegally crosses the border will be detained until they are removed out of our country and back.
Dès le premier jour, dès la première heure, ces gens s'en iront, a-t-il déclaré, les estimant à 2 millions. Le candidat républicain s'est également engagé à annuler tous les décrets ayant accordé une régularisation temporaire à certains sans-papiers. Un reproche au président Barack Obama. Donald Trump a résumé ainsi sa position. Dans plusieurs années, une fois atteints les objectifs de construction du mur et d'expulsion des clandestins dangereux, nous serons en position d'envisager des mesures appropriées pour les individus qui resteraient. Mais il est clair qu'ils devront au préalable retourner chez eux et demander à revenir conformément aux lois en vigueur. M. Trump entend aussi tripler le nombre d'agents du Service fédéral d'immigration, ICE, et créer 5 000 postes de policiers aux frontières, en plus de quelques 20 000 existants. Le républicain veut aussi renforcer les contrôles sur les visiteurs pour empêcher le dépassement de visas, réformer le système de visas et donner la priorité à l'immigration légale selon le mérite, les compétences. Il y a aussi, selon son plan, un test idéologique pour être sûr que les demandeurs de visas aiment l'Amérique et ses valeurs et rejettent entre autres l'islam radical ainsi que les préjugés contre les homosexuels. Pour les observateurs politiques, c'était le Donald Trump des primaires, un candidat qui rassurait sa base conservatrice plutôt que de l'élargir.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Salut. Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seludia et Dan Albertson. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.